Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle saison de JT Sport, le podcast étudiant qui vous récapitule les actualités sportives de la semaine. Du judo pour débuter ce sommaire avec les championnats d'Europe qui se tenaient ce week-end à Montpellier. Pour l'actualité locale, nous reviendrons sur la performance du TFC qui recevait Le Havre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Nous ferons ensuite un rapide tour d'horizon avec 5 actus marquants pour cette semaine. On parlera ensuite de sport automobile avec à la fois la domination de Max Verstappen sur les circuits ainsi que le nouveau tournant qu'a pris la Formule 1 depuis le rachat en 2017. Et enfin, pour notre débat hebdomadaire, Gérald Darmanin devait-il interdire le déplacement des supporters lillois à Marseille pour leur rencontre de samedi soir. Et pour finir, j'espère que vous avez bien révisé, puisque je vous fais passer un petit quiz afin de vérifier vos connaissances sportives. On démarre cette émission avec du judo. Théo, les Français ont brillé ce week-end à Montpellier.
Une véritable razzia. C'est ce qu'ont opéré les judokas et judokates français au championnat d'Europe ce week-end dans l'Hérault. Avec 5 médailles d'or et 3 de bronze, les sportifs tricolores n'ont laissé que des miettes à leurs voisins. L'histoire débute dès vendredi avec Luca Meredze chez les moins de 60 kilos. Il a su se défaire de l'Ukrainien Dilshot Ralmatov grâce à un wazari pour obtenir son premier titre européen. On espère pour lui que son palmarès et sa montée en puissance seront synonymes de qualification pour les JO 2024 à Paris, sachant qu'une unique place est disponible dans sa catégorie.
Qu'en est-il de nos athlètes féminines ?
Eh bien, plus tard dans la journée, Shirin Boukli, vice-championne du monde chez les femmes de moins de 48 kilos, a assis son statut de favorite face à la portugaise Costa. Cette dernière l'a poussée dans ses retranchements en l'amenant jusqu'au Golden Score. C'est comme cela que l'on appelle les prolongations au judo. Finalement, un hippon aura permis à Boukli de ravir un troisième titre continental après ceux de 2020 et 2022.
Les favoris ont donc su confirmer leurs chances de qualification, mais a-t-on eu des surprises ?
Alors effectivement, des surprises, il y en a eu. Toujours vendredi, c'est Amandine Bouchard qui a impressionné dans la catégorie des moins de 52 kilos. Elle a traîné la numéro 1 mondiale Krasniqi jusqu'au Golden Score pour finalement la battre. Autre surprise, samedi cette fois, avec la contre-performance de notre Clarisse Agbegnénou nationale. Rappelons-le, elle est à ce jour 6 fois championne du monde et 2 fois championne olympique. Elle termine à une médiocre 7ème place, son pire résultat en 9 participations européennes. Une erreur de parcours qui sans aucun doute saura la rebooster pour les échéances à venir.
Un vendredi au top et le reste du week-end.
5 minutes 31. C'est le temps qu'il a fallu à Marie-Ève Gaillet pour expédier ses 5 adversaires du samedi. Elle a enchaîné les hippons à l'image de celui qu'elle a infligé à Taïmazova en finale. Un osotogari dévastateur qui lui offre un deuxième titre de cet acabit. Enfin, dimanche, finale en beauté avec Roman Dico qui a ouvert en deux chacune de ses adversaires. Une médaille d'or glanée en 34 secondes, là aussi sur un hippon.
Avec tous ces titres, quelles sont les chances pour nos judokas et nos judokates de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ?
Il semblerait que tous les titrés du week-end aient de grandes chances d'être choisis pour le mois de juillet. Cette décision sera prise le 14 novembre prochain par le comité de sélection. Teddy Riner, bien qu'absent des championnats européens, privilégiant d'autres compétitions, et Clarisse Agbegnénou, malgré son raté, devraient également être de la partie.
Passons pour le football. Après une défaite face à Liverpool et un échec cuisant contre Montpellier 3-0 la semaine dernière, les Violets enchaînent avec une troisième défaite consécutive face au Havre, Enzo.
Et oui, mon cher Thomas, Toulouse qui s'incline au Stadium face au Havre. La fête des 30 ans des Indians a été gâchée par cette défaite toulousaine. Et on a senti un Toulouse amoindri dès le début du match. Guillaume Rest intervient dès la 11e minute sur une frappe surpuissante des 25 mètres du capitaine havré Abdoulaye Touré. Un semblant de réaction avec le poteau de Costa sur un corner de Schmitt. Mais l'action de cette première mi-temps, Thomas, c'est ce pénalty raté de Dalinga en fin de première période.
0-0 à la pause donc, le TFC a montré un tout autre visage dès le début de la seconde période.
Et oui, il n'aura fallu attendre que 4 minutes pour voir le TFC inscrire un but. Et qui d'autre que Dalinga, le joueur néerlandais se rattrape de son pénalty raté avant la mi-temps. Caceres sur le côté droit sert Dalinga seul devant un but vide. C'est son troisième but, toute compétition confondue. Axel Ourthéan en commentaire.
Soiseau, extérieur du pied, qui trouve Franck Magri. Avec Caceres, c'est bien joué, Caceres tout seul qui sort. Et le but ! Le but de Thijs Dalinga !
Scène assez incroyable au Stadium, l'alarme incendie déclenchée et un match arrêté à cause du feu d'artifice. Une fin de match hachée et qui dessert les Toulousains.
Oui, à la 56e minute, une alarme retentit dans le Stadium. Une alarme déclenchée par des fumigènes selon le président du TFC, Damien Comolli. Le match reprendra 10 minutes plus tard. 82e minute, Bayo vient d'égaliser à 10 minutes du terme de la rencontre. Servi par Kechta, il efface Nicolaisen et Spierings avant de terminer à bout portant avec l'aide du poteau.
Attention, Kesta qui va jouer avec Bayo. Bayo dans surface, Bayo. Oh, Bayo, le double contrôle. La vue, la vue. Mohamed Bayo qui se défait de la défense toulousaine.
Quelques minutes plus tard, le jeu est réinterrompu à la suite de feux d'artifice lancés depuis le virage Brice-Taton. 90+5, Mohamed Bayo vient inscrire un doublé après un cafouillage dans la surface de réparation.
Attention, le centre, ou le contrôle, et le but. Oh, le but. Le but dans le temps additionnel. Tout le staff qui va sur Mohamed Bayo. Mohamed Bayo qui vient fracasser.
Le TFC qui pointe à la 14e place de Ligue 1 et qui enchaîne une 3e défaite d'affilée. Le coach Carles Martinez Novel, pas inquiet à 4 jours de recevoir Liverpool, écoutez-le.
Forcément, après 3 défaites, on n'a pas c'est pas un bon moment, mais nous on préfère rester positif. On doit apprendre, surtout d'aujourd'hui, vraiment vraiment d'aujourd'hui. On est déçu forcément par le résultat, mais il faut être focus, continuer à pousser, à apprendre de nos erreurs. Ça, c'est la mentalité qu'il faut avoir.
On passe aux 5 actus de la semaine et on commence tout de suite avec la cérémonie du Ballon d'Or. Marie ?
Lundi dernier, le meilleur du football mondial a assisté au nouveau sacre de Lionel Messi. Le champion du monde a reçu un 8e Ballon d'Or après celui de 2021. L'ancien joueur du PSG rentre un peu plus dans la légende avec ce titre. Son concurrent le plus proche, Cristiano Ronaldo, n'a remporté que 5 Ballons d'Or. Pour les femmes, c'est la championne du monde Aitana Bonmati qui a reçu son premier Ballon d'Or. C'est la 3e année consécutive qu'une joueuse du FC Barcelone reçoit le Ballon d'Or féminin après les deux d'Alexia Putellas.
Du côté du Masters 1000 de Paris-Bercy, c'est une finale à sens unique qui a eu lieu.
Novak Djokovic était le grand favori de la rencontre face à Grigor Dimitrov et il a tenu son rang en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy. Ce dimanche, il s'est imposé en dominant facilement son adversaire en 2-7, 6-4, 6-3. Le numéro 1 mondial a décroché sa 7e victoire à Paris. Il s'agit de son 40e titre en Masters et son 97e sur le circuit ATP.
Pour le rugby français, le week-end a été plutôt compliqué.
C'est une nouvelle défaite pour les filles de l'équipe de France de rugby. Dans le dernier match du Women 15, elles se sont inclinées face au Canada 20-29. Une semaine après l'humiliante défaite face à l'Australie sur le même score, les tricolores voulaient montrer un autre visage, sans résultat. Pour le premier Women 15 de l'histoire, les Bleus repartent avec une bien triste 5e place. Dans ce tournoi, l'Angleterre est invaincue et remporte cette première édition.
Et ce n'est malheureusement pas forcément mieux du côté du Stade Toulousain.
Ils se sont inclinés face à Pau 13-9 pour le compte de la 5e journée du top 14. La section paloise confirme face aux champions de France son bon début de saison. Toujours invaincus sur leur pelouse, les palois sont co-leaders du championnat avec le Racing et le Stade Français. Tandis que le Stade Toulousain tombe à la 6e place à égalité avec Castres et Clermont.
Cette semaine, la FIFA a enfin indiqué la sanction de Luis Rubiales.
L'ancien président de la Fédération Espagnole de Football a été suspendu de toute activité liée au football au niveau national et international pour une durée de 3 ans par la commission de discipline de la FIFA. Celle-ci a déclaré que Rubiales avait enfreint le code disciplinaire après avoir attrapé la joueuse Jennifer Hermoso et l'avoir embrassée sur les lèvres lors de la remise du trophée de la Coupe du Monde.
On termine avec la Transat Jacques Vabre qui va enfin s'élancer. Pour tout le monde.
Après les tempêtes Kiaran et Domingos, la direction de course a officialisé les départs pour toutes les catégories. Ce lundi, ce sont les Ocean 50 et les Classes 40 qui sont partis de Lorient, tandis que les Imoca partiront demain du Havre. Pour rappel, seuls les ultimes ont pris la route de Fort-de-France depuis le 29 octobre. Avec leur rapidité, ils ont pu fuir les tempêtes qui ont touché les côtes françaises. Dans cette catégorie, c'est toujours le duo Armel Lecléache et Sébastien Josse qui est en tête depuis jeudi.
Rendez-vous maintenant sur les circuits de Formule 1 où Paul va nous expliquer pourquoi les saisons sont un peu lassantes et monotones.
I am stupid.
Et oui Thomas, aujourd'hui on va parler de Formule 1, mais pas forcément du sportif. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a quasiment plus aucun enjeu, et pourtant il reste encore 2 Grands Prix à disputer, et tout le monde a un petit peu hâte que ça se finisse, car les saisons à rallonge, on n'en peut plus. Et je vais essayer de vous expliquer comment on en est arrivé là. Et tout part du rachat de la Formule 1 en 2017 par le grand fonds d'investissement américain Liberty Media. Et il faut le reconnaître, depuis ce changement de propriétaire, la discipline revit. Alors que ce sport était vieillissant, son public âgé, les Américains l'ont joué à l'américaine, notamment par la création de la série Netflix Drive to Survive, qui met en avant les coulisses de la F1, à travers des rivalités plus ou moins exagérées, certes, mais qui aura eu le mérite d'attirer un tout nouveau public, plus jeune et nombreux.
Mais est-ce que cela peut suffire à faire rester ce jeune public ?
Justement, c'est tout l'enjeu, et c'est là qu'on rentre un petit peu dans le dur. Entre Weekend Sprint, nouvelle course à Miami et Vegas sur des circuits plus ou moins intéressants, on est entré dans une nouvelle course à l'armement niveau budgétaire qui ne semble pas toujours aller dans le bon sens. Aujourd'hui, quand les sous sont alignés, les choix sont vite orientés. Et sûrement emballé par une saison 2021 exceptionnelle sur tous les aspects, couronnée par le premier sacre de Max Verstappen lors du dernier tour du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi, le promoteur s'est dit que ce serait bien d'avoir des saisons plus longues pour avoir encore plus de suspense.
Mais les Américains n'avaient peut-être pas prévu une telle domination de la part de Red Bull.
Il faut d'abord garder à l'idée que 2021 est exceptionnel dans l'histoire de la F1, ce scénario est unique et le restera. Un championnat qui se joue sur un tour, pas sûr qu'on le revive un jour. Autre problème, Red Bull et Max Verstappen. Après 2021, ils ont décidé d'un commun accord qu'ils ne voulaient plus jamais se faire peur en fin de saison. Donc solution radicale, on gagne tout et on est champion dès Austin alors qu'il reste 4 Grands Prix, explosant par la même occasion le record de victoires sur une saison, 17, et ce n'est pas fini. Pas sympa pour le suspense. Et forcément, plus les saisons sont longues, plus ce risque augmente. C'est le cas cette année, et tout le monde a un petit peu peur que ça se répète dans le futur. Parce que ce diable de néerlandais est fort, mais aussi parce que les saisons s'allongent encore. 24 courses l'année prochaine, on approche de l'overdose.
Au final, on est presque nostalgique du début des années 2000.
À la Thomas, tu prêches un converti. L'époque des saisons à 16 ou 17 Grands Prix rendait encore chaque week-end magique, spécial. On l'attendait, le fantasmait jusqu'au dimanche. Une semaine de course semble aujourd'hui quelque chose d'assez banal. On semble avoir perdu ce caractère sacré du dimanche après-midi, surtout qu'on aura bientôt des courses le samedi. Bref, tout se perd. La F1 ne déroge pas à la règle du sport business, mais devrait se méfier si elle souhaite garder ce public fraîchement acquis et facilement lassable. Un petit coup de gueule pour alerter, mais c'est pas pour ça qu'on va arrêter de la regarder, ni de l'aimer.
Passons maintenant au débat. Une semaine après les incidents concernant le quart de l'Olympique Lyonnais qui avait été caillassé, l'entraîneur gravement blessé à l'œil et le match reporté, Gérald Darmanin devait-il interdire le déplacement des supporters lillois au Vélodrome samedi soir ? Clément, je te donne la parole.
Non, Gérald Darmanin n'aurait pas dû interdire le déplacement des supporters lillois au Vélodrome samedi soir. Premièrement, est-ce que les 250 Lillois prévus représentaient un danger ? Absolument pas. Il n'y a aucune animosité particulière entre Marseillais et Lillois, et les déplacements des nordistes au Vélodrome se sont toujours bien déroulés. De plus, 250 personnes ne représentent pas une difficulté en matière d'organisation policière, surtout en comparaison avec des événements récents, comme la Coupe du Monde de rugby. Ensuite, au-delà de l'interdiction, c'est la manière dont cela a été fait. L'arrêté a été publié la veille du match, ce qui est un manque de respect total pour les supporters, qui avaient déjà planifié leur week-end. Certains étaient déjà présents à Marseille le vendredi, et tous ont déboursé plusieurs centaines d'euros. Et de plus, la tardiveté n'a aucun sens sécuritaire ou organisationnel.
Timothée, une réponse à cela.
Oui, à contrario, moi je pense que le déplacement des supporters lillois aurait dû, comme il l'a été, être régulé, voire interdit. Alors, les supporters lillois, évidemment, n'y sont pour rien. Eux se déplacent pour supporter leur équipe, et dans ce cas, le déplacement était de 1000 km. C'est un déplacement particulièrement conséquent, une semaine après les événements qu'on a connus, peu avant Marseille-Lyon. Alors, le match de la semaine dernière a mis en lumière, quoi qu'on en dise, de lourdes failles dans le dispositif de sécurité. Et en une semaine, il a fallu tirer les conséquences directes des événements de dimanche, mener les premières enquêtes pour déterminer les fautes commises, et préparer un déplacement sur plusieurs champs, puisque certains supporters venaient en voiture ou d'autres en avion ou en train par exemple. Le contexte n'était clairement pas favorable pour accueillir les supporters lillois en sécurité. Il valait mieux annuler.
Je repasse la main à Clément.
Cette décision est totalement contradictoire avec les autres directives. Les deux clubs, la LFP et la préfecture des Bouches-du-Rhône, s'étaient mis d'accord pour un dispositif renforcé. Les supporters devaient venir. La justification sécuritaire liée aux incidents avant Marseille-Lyon est uniquement une excuse pour se faciliter la tâche. Premièrement, les événements étaient hors du stade et ces incidents sont en partie de la responsabilité de la police et donc du ministère de l'Intérieur. Au lieu de pouvoir améliorer leur dispositif, ils ont choisi la solution de facilité, ce qui traduit une certaine incompétence. Cela rentre de manière plus générale dans la gestion désastreuse des supporters en France, qui n'en finit plus d'être liberticide.
Timothée, pour finir ?
Oui, je suis assez d'accord sur ce point. On fait face aujourd'hui à un problème majeur parce que les instances n'ont pas assumé pleinement la charge de gérer des déplacements de petites foules. On s'est retrouvé avec des arrêtés contraignants le déplacement de supporters dans le cadre de matchs à Clermont ou pour un sixième tour de Coupe de France. C'est ubuesque. Et aujourd'hui, loin d'être le fait d'une majorité, on se retrouve régulièrement dans des matchs sous tension avec des actes isolés d'individus. C'était le cas par exemple en 2021 entre Lens et Lille. C'était aussi le cas entre Marseille et Lyon la semaine dernière. Quelques malins qui caillassent le bus de l'OL et ceux de ses supporters, et ça punit deux équipes et des milliers de personnes. Alors le contexte spécial de l'Olympico y est évidemment pour quelque chose, et ces matchs ne peuvent pas être traités de la même façon que les autres. Il n'empêche qu'une semaine après un match aussi tendu, le dispositif de sécurité nécessitait d'être renforcé, et n'était sans doute...
c'est fini pour ce débat. Merci à tous les deux. Et pour finir, un petit quiz. J'espère que vous avez bien révisé. Je vous fais passer un examen sur vos connaissances sportives.
Ah oui, la bonne courage. Qui est meilleur? Qui est meilleur? C'est le meilleur. Ah, si il est un peu repos parce qu'il est...
Excusez-moi, je m'énerve, mais parce que...
Passons maintenant au quiz où j'aurai à ma gauche Enzo et Clément, à ma droite Marie et Théo. Messieurs, dames, première question. Quel groupe de supporters du TFC
Les Indians
fêtait ses 30 ans d'anniversaire ce week-end? Bonne réponse à ma droite de Théo. C'est effectivement les Indians. Deuxième question à présent. Quel joueur a remporté le Master 1000
Djokovic
à Bercy ce week-end? Très rapide, oui, effectivement. Clément Bernet, une bonne réponse à ma gauche. Un point partout.
On entraîne les Bernets.
Troisième question. Max Verstappen a remporté le GP ce week-end au Brésil. Il s'agit de sa combientième victoire de la saison? Je précise qu'il y a eu 20 Grands Prix cette année.
16e.
13e.
C'est 16.
Non, pas la bonne réponse.
17.
Oui, Marie. Bonne réponse de Marie. C'est une bonne réponse à ma droite. 2 points pour l'équipe Marie-Théo, 1 point pour Enzo et Clément. Quatrième question, messieurs, dames. Combien de titres a gagné l'équipe de France de judo lors de ce championnat d'Europe? Bonne réponse également à ma droite. 3 points pour l'équipe Théo, Marie. 1 seul pour l'équipe Enzo et Clément.
Alors,
dernière question. Vous pouvez tous la voir. Quel fait incroyable s'est produit à la 10e minute du match entre Perpignan et Toulon?
Blessure de Dan Bigard qui va pour tirer le drop et qui se blesse au dos.
C'est effectivement une bonne réponse.
sur une pénalité, sur une pénalité.
Mais ça fait que 3-2. Hein. Vous avez quand même perdu.
Eh bien, messieurs, dames, ce quiz touche à sa fin. Bravo à l'équipe composée de Théo et de Marie. 3 bonnes réponses à 2. C'est tout pour ce premier épisode de JT Sport. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux. Homme.